Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Migné, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la Syrie avec Ziad Majed.
C'est sa 11e réunion sur la Syrie à Astana entre la Russie, la Turquie, l'Iran et une représentation des rebelles tolérés. On parlera sécurité, retour des réfugiés et reconstruction. Reste que sur le terrain, la victoire du régime est loin d'être acquise. Bonjour Ziad Majed.
Bonjour.
Et merci d'être au téléphone. Vous êtes politologue à l'Université américaine de Paris. Alors, victoire ou stabilisation fragile, notamment à cause de ces bombardements russes dimanche dernier, passé un peu inaperçu. Mais en réplique, disait Moscou, à une attaque chimique de rebelles sur Alep, là aussi une première, mais c'est très flou. Est-ce qu'on en sait plus ?
Non, il y a eu des images et des photos que la télévision officielle du régime syrien et son agence de presse, de même que les médias russes et certains réseaux sociaux, ont montré des gens qui souffraient, donc qui avaient des masques, et on a dit que c'était une attaque chimique à Alep qui a fait des dizaines de blessés et que c'est plutôt le chlore qui a été utilisé. Sauf que on n'a pas vu l'obus. Les analystes militaires comme Bellingcat et comme ceux qui suivent la question chimique en Syrie depuis 2012, n'ont pas vu les preuves physiques de l'attaque. Il y a eu juste ce qu'on dit, que c'était les conséquences. Contrairement à toutes les attaques qui ont eu lieu dans le pays, où souvent on voyait soit le baril explosif qui contenait le chlore, soit même on voyait les missiles avec leur degré d'inclinaison, soit il y avait des traces de cette attaque-là, ce n'était pas le cas. Mais les Russes quand même ont réagi en bombardant et en accusant l'opposition qui a évidemment nié toute responsabilité et qui a même nié l'existence de cette attaque.
Oui, c'est ça. Les Russes avaient parlé d'un obus de 120 mm, mais c'est vrai dont on n'a pas vu les fragments aujourd'hui. Le fait que justement ce soit pour la première fois la Syrie, les autorités de Damas qui aient demandé une enquête de l'OIAC, qu'est-ce que ça signifie alors dans ce contexte ?
Oui, alors ça c'est encore une fois, dans la guerre des récits et des propagandes, on sait très bien que c'est la Russie qui a à plusieurs reprises utilisé le droit de veto pour protéger le régime syrien de toute enquête, qui a même imposé en 2013 que l'enquête juste détermine s'il y a eu, oui ou non, attaque chimique sans avoir le droit de préciser qui était responsable. On sait également que la Russie a souhaité la fin de la mission par rapport à l'usage des armes chimiques en Syrie. Et puis maintenant, ils demandent qu'il y ait une enquête, mais même leur demande était formulée d'une manière plutôt politique pour essayer de relativiser ce qui a eu lieu dans ce pays. Et c'était au moment où on parlait de nouveau d'enquête de la part de commissions onusiennes sur la question chimique en Syrie. Donc il se peut qu'il y ait eu quelque chose, que ces citoyens-là vraiment souffraient d'une conséquence d'une attaque, sauf que cette fois, on n'a vraiment aucune preuve au niveau physique, au niveau des images, que l'obus lui-même montrait un usage chimique.
Oui, c'est vrai qu'il s'agissait de 107 citoyens, selon le régime, légèrement blessés, qui ont été soignés par oxygène. Par contre, en retour, ce qui est vraiment avéré, c'est que la zone qu'on dit démilitarisée depuis l'accord du 17 septembre, accord russo-turc d'Idlib, a été attaquée et bombardée par la Russie, notamment un village, Djarjanaz, à l'est d'Idlib.
Oui, et il y a eu des morts parmi les civils, il y a eu des enfants et une femme qui ont été tués. Et puis, il y a eu également des pressions politiques, dans le sens où les Russes ont menacé de ne plus tenir compte de la trêve qui existe aujourd'hui à Idlib. Donc, cela va avoir des conséquences au niveau des pourparlers. Et peut-être c'est aussi pour, de nouveau, évoquer le cas d'une partie de Idlib contrôlée par le Front al-Nusra ou le HTS, qui est une formation djihadiste présente dans cette zone-là.
Alors justement, c'est étonnant, disons, cette fragilisation de la trêve, alors même que il y avait un premier échange de prisonniers qui avait eu lieu entre une faction alliée de la Turquie et des soldats du régime à Al-Bab tout récemment. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors qu'est-ce que ça implique ? Qu'on veut faire pression sur la Turquie dans cet accord russo-syrien ?
Oui, c'est-à-dire, comme vous avez dit, depuis le 17 septembre dernier, les Russes et les Turcs avaient mis en place un accord selon lequel il doit y avoir une zone démilitarisée, il doit y avoir une trêve à Idlib, que la Turquie peut avoir plus de temps pour régler le problème des djihadistes de Nusra. La Turquie pense pouvoir les diviser afin de les affaiblir et peut-être après les attaquer. Qu'en même temps, il va y avoir une ouverture d'axes routiers entre le littoral syrien et la ville d'Alep qui passe par la région de Idlib et que cela pourrait mener à une certaine normalisation après dans la zone en attendant des accords politiques. Mais d'un côté, les Russes veulent faire pression sur les Turcs car ils veulent trouver bientôt une solution concernant la zone contrôlée par les djihadistes à Idlib. Et en plus, ils veulent montrer qu'ils sont toujours maîtres du jeu et que l'attente ou bien le temps ne va pas les rendre juste un acteur comme les autres, dans un statu quo qui n'évolue pas. Surtout que tout le monde attend aujourd'hui la position américaine, comment elle va être traduite concernant la présence iranienne en Syrie et la demande américaine des Russes d'expulser l'Iran, de l'exclure du processus politique et d'imposer un retrait militaire de ses troupes et de la part de ses alliés du pays. Sauf que ni la Russie a aujourd'hui la volonté ou les moyens de le faire, ni les Iraniens vont se retirer au moment où ils sont visés par de nouvelles sanctions sans pouvoir négocier des compromis. Dans ce contexte-là, vient la pression russe qui suit un acte symbolique d'échange de prisonniers, bien que le grand problème est la présence de dizaines de milliers, plus de 80 000 détenus politiques dans les geôles du régime qui continuent à envoyer à certaines familles des certificats de décès de leurs proches, comme ce fut le cas hier de Fatin Rajab, qui est une des scientifiques éminents du pays, qui est mort sous la torture dans les geôles du régime, et d'une autre personne qui a la double nationalité américaine et syrienne, qui vient de mourir aussi. Elle a été arrêtée il y a des années, et malgré toutes les demandes, finalement, elle a été exécutée selon le certificat de décès. Donc ce problème-là, cette crise terrible, humanitaire, comme politique, par rapport aux détenus, reste au corps des pourparlers, même si le régime ne veut pas pour le moment en entendre parler.
Oui, en tout cas, la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes de guerre en Syrie l'a rappelé hier. Elle a demandé à Damas de donner tous les détails sur ces détenus qu'elle dit morts par infarctus, souvent, ou crise cardiaque. Ce sera à suivre. Alors, si je vous comprends bien, pas d'offensive imminente sur Idlib, mais plutôt des pressions. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'un peu parallèlement à Astana, il semble y avoir un genre de réintégration diplomatique, du moins dans le monde arabe du régime, avec l'ouverture de la frontière avec la Jordanie. On parle également d'une démarche des Émirats Arabes Unis, d'une présence militaire saoudienne et des Émirats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va vers une normalisation ou de nouveaux intérêts qui se montrent ?
Oui, je ne pense pas qu'on est déjà devant une normalisation politique, mais il est vrai que dans le club des dirigeants arabes, qui sont à majorité toujours des dictateurs, et depuis la victoire de la contre-révolution dans la plupart des pays arabes, le problème avec Assad n'est plus une question, disons, centrale dans leur politique régionale, d'où une volonté de montrer qu'il peut y avoir des ouvertures, mais souvent conditionnées, notamment par les monarchies du Golfe, qui n'ont pas de problème avec Assad et ses crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais qui veulent surtout que l'Iran ne reste pas aussi influente en Syrie. Donc ils sont un peu plus dans la démarche américaine. Il n'y a pas un grand problème avec Assad, il n'y a pas du tout un problème avec la Russie. Le problème, c'est avec l'expansion iranienne. Donc, dans ce sens-là, on peut penser à des pourparlers, des ouvertures politiques entre certaines capitales arabes et Damas. Mais cela ne suffira pas pour permettre à Assad de revenir sur la scène internationale comme si rien n'est fait. C'est un risque, les Russes le veulent. Mais pour le moment, il y a quand même une opposition européenne qui rend cette tâche un peu difficile.
Et du coup, ça valide quand même cette hypothèse selon laquelle il y aurait, par la présence des Émirats et de l'Arabie Saoudite, un levier américain sur l'Iran qui se mettrait en place. Et est-ce que ça veut dire que du point de vue de futures négociations, si jamais il y en a, Astana aussi est dépassé, qu'il va falloir beaucoup élargir le processus, ne serait-ce qu'au niveau régional?
Oui, alors les Saoudiens et les Émirats, ils sont un soutien américain clair et ferme, ne peuvent pas tenir tête à l'Iran, ni en Syrie, ni ailleurs. On l'a vu au Yémen avec les alliés iraniens, les Houthis, on l'a vu au Liban, on l'a vu même en Syrie quand ils n'ont pas maintenu leur politique de soutien de l'opposition suite à les hésitations américaines et l'invasion russe. Donc je pense que ce sont les Américains surtout qui doivent élaborer une politique et selon l'agenda américain. On verra comment les Saoudiens et les Émirats ils vont se positionner. Maintenant, il y a juste les questions centrales qui sont évoquées à Astana, même si d'une manière qui ne va pas aboutir à des solutions. Mais la question, par exemple, de la reconstruction, les questions du retour des réfugiés, ce sont des sujets officiellement sur la table, mais on sait tous que la reconstruction ne peut pas se faire par les Iraniens et les Russes. Le régime n'a pas les moyens. Il prépare des hommes d'affaires aujourd'hui pour pouvoir recevoir l'argent afin de créer des projets sur des territoires confisqués ou sur des zones complètement ravagées autour des grandes villes afin de s'approprier la propriété, les biens des réfugiés et des opposants et des gens qui vivaient là-bas dans des quartiers informels parfois. Mais cet argent n'arrive pas. Les Russes veulent que les Européens payent en leur disant que si vous faites la reconstruction, les réfugiés vont rentrer. Cela est une illusion parce que les réfugiés ne rentrent pas dans un pays où il n'y a pas de solution politique, où le même régime qui les a expulsés est toujours en place et les menaces de torture et de mort sur la torture. Donc la reconstruction reste une question suspendue. Le retour des réfugiés aujourd'hui est impossible. Et la question qui se pose de nouveau et qui doit toujours se poser par rapport à la Syrie, c'est la question de l'impunité avec un régime accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, car cela ne mènera jamais à la stabilité, ni au retour des réfugiés, ni à des solutions politiques des crises qui se poursuivent depuis des années maintenant, voire des décennies.
Merci beaucoup Ziad Majed, et bien sûr on renvoie votre livre Dans la tête de Bachar el-Assad.